Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, installez-vous, c'est le débat du jour, comme tous les soirs sur Radio France Internationale. La droite en France est-elle en ordre de bataille ? Éric Zemmour a lancé sa course vers l'Élysée hier devant plus de 10 000 personnes réunies en meeting près de Paris. Une bagarre a éclaté à l'arrière de la salle entre militants des SOS Racisme et sympathisants d'Éric Zemmour. SOS Racisme porte plainte. Le candidat d'extrême droite, lui, porte plainte à son tour après avoir été empoigné vigoureusement par un individu avant son entrée en scène. Le même Zemmour qui invite à la tribune Éric Ciotti à le rejoindre. Le candidat perdant des LR reproche lui à Valérie Pécresse, celle qui porte désormais les couleurs des Républicains pour la présidentielle, de ne pas suivre sa ligne droitière. Voilà en quelques mots le bilan du week-end politique à 5 mois de l'élection présidentielle. La droite est-elle en ordre de bataille ? C'est le débat du jour.
Le débat du jour.
Avec 3 invités en direct, merci à tous les 3 d'avoir répondu présent. Tout d'abord, à ma gauche, si j'ose dire, Jean-Yves Camus, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et chercheur associé à l'IRIS. Jean-Philippe Moinet, à ma droite, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur, chroniqueur, fondateur de la revue Civique. Et puis, au centre, c'est-à-dire par téléphone, Gilles Richard, historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Rennes, président de la Société française d'histoire politique et puis auteur du livre « Les droites en France » aux éditions Perrin. Bonsoir Gilles Richard.
Bonsoir monsieur.
Alors d'abord, cette candidature d'Éric Zemmour lancée hier en grande pompe près de Paris à Villepinte. Premier tour de table pour les spécialistes des droites que vous êtes. Comment avez-vous vécu ce tour de force, ce premier meeting d'Éric Zemmour ? Tout d'abord avec vous Jean-Yves Camus.
C'était, à mon avis, une prestation réussie d'un candidat qui, par son inexpérience de la chose politique, semblait à beaucoup d'observateurs peu capable de se transformer en bête de scène.
Tribun.
En tribun. Il a montré qu'il était effectivement un bon orateur. Non seulement sur le petit écran, mais qu'il savait tenir une salle. J'ai rarement vu, depuis les années Jean-Marie Le Pen, une ferveur aussi forte chez les partisans d'un candidat qui, il faut le rappeler quand même, est crédité d'un socle électoral considérable pour quelqu'un qui, il y a quelques mois encore, n'était pas dans la course. Bref, c'est somme toute, et malgré les incidents que vous venez de rappeler, une prestation assez réussie et qui met la droite dite mainstream ou conservatrice dans l'embarras, parce que Éric Zemmour a tout de même réussi à vilipender le mentor politique de Valérie Pécresse, Jacques Chirac, en des termes qui, à mon avis, sont parfaitement excessifs. Il a également fait ovationner Éric Ciotti, ce qui met celui-ci dans une position difficile.
Et vilipender le chef de l'État.
Ça, c'était un peu à l'ordre du jour. Mais dans des termes, ou du moins dans certaines de ses phrases, dans des termes qui sont, à mon avis, assez indignes, parce que l'on peut s'attaquer à la politique que mène le président de la République, mais on ne traite pas l'homme comme cela.
Alors, a-t-il été indigne ? A-t-il réussi sa prestation avec vous, Jean-Philippe Moinet ?
En tout cas, je trouve que, pour ma part, il a un peu mieux réussi son début de campagne que la semaine dernière. Rappelons-nous cette vidéo lugubre qui, par ailleurs, utilisait des images sans droit et donc qui montrait peut-être aussi la perception et la conception qu'il avait du droit et de l'état de droit. Mais au-delà de ça, il avait plutôt raté cette séquence de candidature et le fameux interview du soir sur une grande chaîne française où il était en fait, il s'est laissé à la fois piégé par des questions qui étaient légitimement posé avec liberté par l'intervieweur. Donc, il a essayé, je sens, et ce qui m'a frappé dans son meeting, alors réussi ou très réussi, en fait, orateur, il est moins bon orateur que l'un de ses prédécesseurs dont il est dans la filiation, Jean-Marie Le Pen, qui parlait sans notes. Là, il avait un prompteur, donc effectivement, il sait lire un prompteur. Au-delà de ça, je pense qu'il a marqué, comme d'habitude, j'allais dire, la surenchère des radicalités, à savoir, voyons que sa campagne patinait la semaine dernière. Il a cherché des choses pour exciter son public, et ça a été pour le moins le cas, la véhémence de ces attaques, je crois qu'elles ont été à 6 reprises, ont ciblé les médias, par exemple, ce qui montre sur le fond qu'il est celui qui vilipende non seulement les médias, mais tout ce qui peut être contre-pouvoir, les magistrats, notamment la justice en général, dont il a été l'objet de condamnation, et il dit que c'est un délit d'opinion. Non, c'est simplement l'application du droit républicain français. Et sur les médias, c'était très symptomatique. Plus que réussi dimanche, à savoir ses charges répétées et qui créent évidemment des véhémences dans son public. Et on a vu quelques journalistes être pris à partie au point d'être, entre guillemets, mis à l'abri. C'est quand même un symptôme et un problème.
Gilles Richard, vous partagez ce que vient de dire Jean-Philippe Moinet et puis par ailleurs Jean-Yves Camus ?
Oui, alors je partage sur l'aspect réussite du meeting. Je dirais que même les incidents qui sont survenus servent Éric Zemmour, puisque ça fait parler de son meeting. Voilà, ça éclipse en partie la victoire de Valérie Pécresse à la primaire, enfin au congrès. À la primaire interne à LR. Il n'empêche que reste encore pour Éric Zemmour à démontrer sa capacité à long terme, c'est-à-dire à long terme jusqu'au mois d'avril prochain, à être un candidat véritablement crédible, à obtenir ses signatures.
Mmh. Là, vous parlez des parrainages, les 500
voilà,
signatures
d'élus. Les 500 signatures qu'il doit avoir, à mettre sur pied le parti dont il a annoncé la création, le parti Reconquête, et à préciser encore son programme, parce que il fait son meeting le 5 décembre, jour anniversaire de la création, il y a 35 ans, 45 ans du RPR, mais le RPR qui est créé le 5 décembre 1976 se voulait et se prétendait un parti travailliste à la française, avant qu'il change un certain nombre de fois de ligne politique. Et on voit bien là que pour Éric Zemmour, se situer par rapport au RPR, par rapport à Charles de Gaulle, dans le temps présent, pose des problèmes car il y a énormément de différences entre le présent et puis le passé auquel il fait référence.
Et énormément de différences entre toutes les droites, entre cette famille dite de droite. Je vais faire tourner la parole si vous permettez. Jean-Yves Camus voulait réagir.
Gilles Richard a tout à fait raison de rappeler que le RPR, à sa création, se voulait un parti travailliste à la française. Il y a même eu d'ailleurs dans ce que l'on appelait le gaullisme de gauche de la décennie précédente, c'est bien oublié aujourd'hui, une union travailliste, qui, si je me souviens bien, était dirigée par Yvon Moranda. Le RPR auquel fait allusion Éric Zemmour, celui dont il se réclame, c'est celui qui, voyant le Front National de Jean-Marie Le Pen monter, à partir notamment des européennes de 1984, dans un contexte particulier à partir de mai 1981, qui était l'arrivée au pouvoir de la gauche, avec des ministres d'un parti communiste qui précédait la chute de l'Union soviétique, était considérablement radicalisé. Donc, se réclamer de l'héritage gaulliste et de l'héritage du RPR, oui, mais il faut dire lequel.
Mais vous pensez que ça parle à ses électeurs, ce que vous venez de dire, et ce que défend Éric Zemmour ?
Non, moi-même, j'étais présent ce jour-là, j'étais tout jeune, je venais de rentrer à Sciences Po, ça ne parle naturellement pas à mes enfants, et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'aura Éric Zemmour. Toutes ces années de prospérité, des Trente Glorieuses que nous avons connues, et qu'il a lui aussi connu. Il peut en être nostalgique, on peut toujours effectivement regretter un marché du travail beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fluide, un pouvoir d'achat sans doute plus important, et un ascenseur social qui fonctionnait mieux. Mais il se trouve que On ne rebâtira pas ce qui a été détruit. Ce qu'a fait hier Éric Zemmour, c'est du Trump dans son discours de Pittsburgh. Souvenez-vous, en 2016, Donald Trump parle à Pittsburgh aux sidérurgistes qui ont perdu leur emploi. Mmh. Et il leur dit « Je ramènerai vos machines et vos usines ». Naturellement, aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre, et il n'y aura certainement plus ni l'un ni l'autre. C'est ça qu'Éric Zemmour essaye de nous dire.
Du Trump, du Le Pen, en l'occurrence du Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il a ringardisé Marine Le Pen hier,
Jean-Philippe Moinet? Je pense qu'il n'a pas forcément ringardisé Marine Le Pen. Il lui rend plutôt service dans son opération depuis qu'elle a été à la succession de son père et avec l'aide de son père. On l'a oublié aussi à la tête du Rassemblement national, enfin du Front national devenu Rassemblement national. Elle cherche à notabiliser, à ripolliner la façade et elle y a plutôt réussi d'ailleurs. Et elle a un électorat qui n'est pas celui d'Éric Zemmour, par ailleurs aussi. Mais sur le sujet de l'incantation zemmourienne qui veut à la fois, on va dire, contribuer à réhabiliter le maréchal Pétain et jouer dans une posture qui ressemble à une imposture, invoquer le général de Gaulle. Rappelons quand même un des points fondamentaux de toutes les périodes du gaullisme et du mouvement gaulliste, le RPR compris, était de faire barrage à l'extrême droite et donc à ce qui est aujourd'hui Éric Zemmour. Donc il essaye de faire parler les morts, par exemple, en faisant parler Philippe Séguin, qui était intransigeant vis-à-vis de l'extrême droite, et Charles Pasqua, qui l'était peut-être moins au niveau des programmes et des idées, mais qui l'était quand même, et qui était surtout l'héritier de la résistance et l'un des fondateurs du mouvement gaulliste sous la Ve République. Mais en tout cas, Jacques Chirac a été l'une de ses incarnations, a toujours non seulement fait une différence, mais établit ce qu'on a appelé le cordon sanitaire entre la droite républicaine et l'extrême droite lepéniste.
Nous tentons d'y voir là plus clair sur le spectre politique d'Éric Zemmour. Il y avait qui au meeting d'Éric Zemmour, au moins à la tribune, de Jacqueline Mourot, ex-Gilet jaune, à Jean-Frédéric Poisson, proche de Christine Boutin. Au total, 9 personnalités ont apporté leur soutien aux polémistes. Alors, de quoi parle-t-on? On ne parle pas d'une droite, mais bien des droites, pluriel, si j'ose dire. Gilles Richard.
Oui, exactement. Et en fait, si on veut prendre un peu de recul, analyser la situation des droites aujourd'hui de façon générale, et puis avec les années qui viennent de s'écouler, on a deux grandes familles de droite qui demeurent aujourd'hui, en considérant que gaullistes, démocrates chrétiens, agrariens, chasse, pêche, nature et tradition sont aujourd'hui réduits à pas grand-chose. Il y a les néolibéraux européistes et il y a la grande famille des nationalistes identitaires. Et ces deux familles sont, incarnées ou portées par trois partis, et c'est bien le problème. Du côté des néolibéraux européistes, il y a La République En Marche et le président au pouvoir, Emmanuel Macron, qui incarne massivement cette famille, rejoint par les juppéistes, etc. De l'autre côté, il y a le parti historique des nationalistes, le Rassemblement National. Et il y a entre les deux un parti qui est écartelé et qui est LR, et qui est écartelé depuis 2017, qui a déjà perdu beaucoup d'adhérents et de force. Les juppéistes sont partis déjà du côté d'Emmanuel Macron. Toute une partie aussi des élus locaux, des électeurs du temps de Sarkozy sont partis du côté de Marine Le Pen. Et ce parti LR est dans une situation complexe. Il n'est pas certain que la candidature de Valérie Pécresse lui permette de survivre.
On va y venir à la candidature de Valérie Pécresse.
Le dernier élément, je pense, c'est qu'on peut voir aussi que la famille nationaliste en France a énormément progressé, on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, depuis des années. Marine Le Pen a fait quasiment 11 millions de suffrages en 2017, le double de son père en 2002. Et cette famille aujourd'hui est tellement importante qu'elle peut se payer le luxe, si je peux dire, de se diviser avec un Éric Zemmour. Voilà. Mais la messe n'est pas dite, si je peux parler ainsi, et il n'est pas certain qu'Éric Zemmour va l'emporter sur Marine Le Pen, car Marine Le Pen a un certain nombre d'atouts en main, qu'elle a d'ailleurs commencé à jouer et qui fait que dans les sondages, si tant est qu'il faille les suivre.
Alors vous faites réagir là, nos deux invités en studio. Tout d'abord rapidement Jean-Philippe Moinet, puis après Jean-Yves Camus.
Oui, rapidement, je rejoins une partie de l'analyse et je rajouterai un élément suivant, c'est que j'aperçois, j'observe une double fracturation, une double fragmentation à la fois des droites et des extrêmes droites, puisque aujourd'hui l'extrême droite est bicéphale, avec Marine Le Pen d'un côté qui domine pour l'instant Éric Zemmour, et cette compétition entre les deux, Éric Zemmour essayant à un certain moment d'invoquer, en allant le voir à dîner ou à déjeuner, le père Jean-Marie Le Pen, qui d'ailleurs dit qu'il n'a jamais eu autant d'empathie pour quelqu'un depuis Saddam Hussein. C'est quand même une remarque extraordinaire de Jean-Marie Le Pen à l'égard d'Éric Zemmour. Et de côté de la droite républicaine, il y a cette fragmentation effectivement entre l'orientation, on va dire, pro-européenne et celle plus souverainiste, on va dire, qui est plus classique d'ailleurs dans la ligne de partage. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a une droite de la majorité, incarnée par exemple par Édouard Philippe, qui était comme Valérie Pécresse auprès d'Alain Juppé, il y a 5 ans, au moment de la primaire du même mouvement LR, qui se divisait par les 3 ou 4 candidats qu'on connaissait à l'époque. Et Valérie Pécresse était, comme Édouard Philippe, favorable à l'élection, en tout cas à l'investiture d'Alain Juppé. Donc on voit bien qu'il y a une fracturation, on y reviendra sur le mouvement LR concernant la ligne de partage avec 40% d'Éric Ciotti, quand même, qui est important, qui pèse dans l'avenir de la campagne de Valérie Pécresse.
Vous écoutez Radio France Internationale. Nous parlons des droites en France avec Jean-Philippe Moinet, Jean-Yves Camus, Gilles Richard. En tout cas, la campagne électorale a pris un sérieux coup d'accélérateur ce week-end, particulièrement à droite de l'échiquier politique. Alors, sans avoir encore les parrainages, je citerai les candidatures donc d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse, mais aussi Marine Le Pen, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Yves Camus, pour vous, cette campagne des idées là, se jouera-t-elle à droite, vers l'extrême droite ou pas ?
Cette campagne des idées, elle devrait d'abord laisser un peu de visibilité à la gauche, qui est la grande absente de cette partie de la campagne, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que finalement, ces premiers mois de pré-campagne ont été déclarations d'Éric Zemmour, commentaires sur les déclarations et commentaires sur le commentaire. Il serait peut-être temps, quand on regarde l'échelle des préoccupations des Français, et notamment la part que les questions des retraites et du pouvoir d'achat jouent dans les orientations de vote des Français, que l'on commence à s'intéresser un petit peu à ce que la gauche propose. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est que le positionnement d'Éric Zemmour est plus complexe qu'il y paraît. Le réduire à un candidat d'extrême droite, c'est oublier qu'il y avait hier à la tribune des gens qui n'appartiennent pas à cette famille. Jean-Frédéric Poisson, dont les convictions catholiques sociales, on va dire doctrine sociale de l'Église, sont réelles, sincères. Les représentants du mouvement conservateur...
Cher Jean-Yves, quand on écoute le pape François, on voit une très nette différence.
La doctrine sociale de l'Église, c'est le pape François, mais c'était avant lui Frédéric Le Play, Albert Demain, la Tour du Pin et une autre orientation. Et le débat est porté aujourd'hui à l'intérieur même de l'Église entre ceux qui suivent effectivement les orientations du pape François et d'autres qui suivent davantage le cardinal Sarah ou le cardinal Burke. Pour en revenir à Zemmour, ce positionnement à l'extrême droite, il n'est pas entièrement exact. Si un mouvement comme le mouvement conservateur, avec ce sens commun, qui était un mouvement associé aux Républicains, se range aujourd'hui derrière Éric Zemmour, si près d'un quart des électeurs de François Fillon en 2017 optent déjà pour Éric Zemmour, ça veut dire que ça n'est pas seulement un candidat d'extrême droite. C'est peut-être un candidat qui se situe à l'extrême droite de l'actuel spectre politique, mais c'est bien quelqu'un qui se réclame de la droite, qui séduit des électeurs de droite, et qui va, à mon avis, enfoncer davantage un coin dans l'électorat de la droite que dans celui de Marine Le Pen.
Et qui fait, en l'occurrence, les yeux doux à LR. Lorsqu'il tend cette main à Éric Ciotti, est-ce peut-être le signe d'une porosité, d'une fracture ? Qu'en pensez-vous, Gilles Richard ?
Oui, bien sûr, il y a une porosité très forte. Je pense que pour comprendre cette situation, il faut toujours remonter à la naissance de l'UMP. L'UMP est créée en 2002, par Jacques Chirac et Alain Juppé pour regrouper le RPR et l'UDF. Un RPR débarrassé des Pascoyens et l'UDF giscardienne. Et dedans, il n'y a pas de place pour les nationalistes, il n'y a pas de place pour une alliance, une quelconque alliance avec le Front National. Mais Alain Juppé perd la présidence de l'UMP pour des raisons judiciaires. Et c'est Nicolas Sarkozy qui le remplace. Et Nicolas Sarkozy lance une stratégie inspirée de Charles Pasqua, dont il a été l'élève, hein, en essayant de tenir un double discours. C'est comme ça qu'il construit sa montée en puissance entre 2005 et 2007 et qu'il se fait élire en 2007, en étant à la fois un partisan de l'Europe et un fervent défenseur du néolibéralisme, et en ajoutant toute une composante identitaire qui va donner notamment le ministère de l'Identité nationale, hein, en 2007, et ce qui lui permet de récupérer des voix de Jean-Marie Le Pen qui, au demeurant, a fait une très mauvaise campagne en 2007. Et on a donc, à partir de ce moment-là, une UMP, devenue LR plus tard, qui est contradictoire, enfin, qui a une contradiction, une faille en son sein. Dans les 350 000 adhérents de 2007, il y a les adhérents anciens, RPR, UDF, etc. Et il y a toute une vague de nouveaux adhérents qui sont beaucoup plus sensibles aux thématiques du Front National et à la question nationale et identitaire.
D'où le bon résultat peut-être d'ailleurs d'Éric Ciotti à la primaire.
Oui,
D'autant meilleur ce résultat de Ciotti que toute une partie des européistes néolibéraux, les juppéistes, sont déjà partis.
Jean-Philippe Moinet.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut remarquer également et souligner, c'est le rétrécissement très substantiel de la base des adhérents de LR. Il y a encore 5 ans, ils étaient 240 000. Ils sont aujourd'hui 130 000. Ils étaient avant l'été 130 000 grâce aux primaires, mais avant l'été, ils étaient 80 000. Et en 2019, ils étaient 58 000. Donc, ils étaient dans les années 2006 autour de 350 000. Donc, on voit qu'il y a un rétrécissement, j'allais dire, au lavage de l'histoire récente de LR en termes de numérique, en termes quantitatifs d'adhérents, ce qui a d'ailleurs frappé d'autres mouvements politiques. Et le Parti socialiste lui-même est réduit aujourd'hui, ce qui est historiquement bas, à 22 000 adhérents. Il y a encore 5-6 ans, ils étaient 100 000 avant 2017. Donc on voit bien qu'il y a des mouvements de recomposition du paysage politique qui font qu'il y a ce rétrécissement. Et dans ce rétrécissement, il y a un problème pour LR, je rejoins Jean-Yves Camus, c'est la ligne stratégique différente. Ce n'est pas seulement des différences idéologiques entre ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui le sont moins ou pas du tout. C'est stratégiquement, il y a un candidat à l'investiture qui pèse 40% qui disait la semaine dernière « S'il y a Zemmour et Macron au deuxième tour, je vote Zemmour ». Valérie Pécresse ne dira jamais cela. Elle avait même quitté LR pour son rétrécissement et le fait qu'il était cadenassé et sur le fait, comme Xavier Bertrand, considérant que le neutralisme de la direction à l'époque de Laurent Wauquiez par rapport à l'extrême droite était un problème qui motivait son départ, Xavier Bertrand. Donc il y a un problème de stratégie par rapport à la relation établie avec non seulement une porosité, mais ça va beaucoup plus loin que ça, d'Éric Ciotti par rapport à Éric Zemmour. Et d'ailleurs, ça peut s'imaginer et se comprendre. Et ça peut peut-être faire que dans quelques mois, il quittera peut-être lui-même, si Éric Zemmour monte dans les intentions de vote, soit Éric Zemmour, soit Marine Le Pen, ce que je crois moins.
Jean-Yves Camus, oui, vous observez aussi cette difficile posture à trouver pour Valérie Pécresse afin de rassembler aujourd'hui son camp?
Écoutez, Valérie Pécresse a affaire effectivement à une opposition qui aujourd'hui, à l'intérieur de son camp, s'exprime de manière assez ouverte. Quand aussitôt le choix des militants effectué, Éric Ciotti critique l'orientation du programme, alors même qu'il y a le lendemain un meeting qui est prévu dans sa ville, c'est quand même pas un très très bon signal d'unité. Alors avec Éric Ciotti, on sait très très bien qu'il y a une ligne qu'il défend depuis maintenant très longtemps, et je ne sais pas quelles sont les considérations autres qu'électorales qui l'ont poussé à rester encore au sein du parti politique auquel il adhère. Et il a déjà, franchi la ligne depuis un certain temps. Et c'est tout le problème de LR, c'est que c'est devenu ce qu'on appelle en sciences politiques un parti big tent. C'est-à-dire une grande maison dans laquelle on met tout le monde. D'abord parce que la logique du scrutin et la logique des institutions, ils poussent. Le scrutin majoritaire, plutôt que la proportionnelle, ça pousse à agglomérer tout le monde dans une grande maison où, au bout d'un certain temps, tout le monde n'ayant pas les mêmes idées ni les mêmes tactiques, ça finit par craquer de toutes parts. Est-ce que Valérie Pécresse pourra maintenir la cohésion de son camp? Ça va dépendre. On en aura une idée dès ce soir, je crois, des premiers sondages qui tombent après le meeting d'hier d'Éric Zemmour. Il ne faudra pas s'emballer parce qu'il serait assez normal que la cote d'Éric Zemmour augmente après sa prestation d'hier. Il faudra regarder dans 15 jours, dans 3 semaines. Et puis, avant tout, à partir de la mi-janvier, parce que c'est là que ça va quand même devenir véritablement sérieux, comment les choses se stabilisent.
Normal, juste un point là-dessus. On peut estimer, à l'inverse, que les images de véhémence et de violence, qu'elles soient d'ailleurs subies par le candidat ou provoquées par ses partisans vis-à-vis soit des journalistes, soit des militants pacifique de SOS Racisme qui se sont fait molester, on ne peut pas dire que ça peut concourir, en tout cas, une image de reconnaissance démesurée d'Éric Zemmour. On verra. Mais en tout cas, ça peut aussi participer de l'idée sur laquelle, d'ailleurs, Marine Le Pen joue actuellement, qu'il est le candidat sulfureux qui pourrait ressembler à son père. Et donc, militer, au contraire, pour un vote, on va dire, plus rassembleur qu'elle essaye d'incarner, elle, du côté de l'extrême droite réunie.
Vous ne direz pas le contraire, Gilles Richard, ne pas mettre de côté trop vite Marine Le Pen dans cette campagne électorale ?
Ah, certainement pas. Il ne faut pas la mettre trop vite de côté, c'est clair. Elle garde beaucoup d'atouts dans son jeu. Pour revenir à Jean-Marie Le Pen, on le qualifie de sulfureux et bien sûr, il a dit qu'il était fasciné par Zemmour, comme par Saddam Hussein. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est finalement si positif que ça comme manière de parler d'Éric Zemmour. Mais il faut bien se rendre compte que Jean-Marie Le Pen a toujours oscillé entre deux stratégies. Hein. Parce que en 86, quand il prépare les législatives, il s'allie avec le vieux CNIP et il prend bien garde de mettre en position d'éligible pour ses députés des notables bien assis. Hein. Et ensuite, quand il négocie avec Bruno Maigret et qu'il le laisse dans un premier temps monter, on a là aussi une stratégie qui vise ouvertement à une alliance avec le RPR et l'UDF. Et donc, il y a toujours eu une hésitation. Et ce qui est nouveau avec Marine Le Pen, c'est qu'elle a décidé qu'il n'y avait plus d'hésitation. Ce serait cette politique dite de dédiabolisation, hein, qui consistait à aller à la fois au pouvoir seul et quitte à avoir quelques alliés ou ralliés, hein, dont d'ailleurs Éric Ciotti, hein, peut-être, tout en se refusant à entonner les thèmes de l'antisémitisme, etc.
Voilà. Diviser l'extrême droite comme là, c'est en tout cas ce qu'on a sous les yeux, est-ce laisser aussi un boulevard à l'éventuel candidat Emmanuel Macron, Jean-Yves Camus?
Écoutez, de toute manière, quand on regarde les enquêtes d'opinion jusqu'à ce jour, quelle que soit la configuration du second tour, Emmanuel Macron l'emporte. Il l'emporterait d'ailleurs mieux face à Éric Zemmour que face à Marine Le Pen, dont certaines enquêtes d'opinion disaient, il n'y a pas très longtemps, qu'elle pouvait monter à 45%. 45%, ça ne permet pas d'avoir la victoire, mais enfin, c'est, je le rappelle, 12% de plus qu'au second tour en 2017, ce qui serait quand même pas négligeable. Sur Jean-Marie Le Pen, en deux mots, Jean-Marie Le Pen voulait l'alliance, mais il la voulait à ses conditions. Or, ces conditions étaient inacceptables, en grande partie, à cause de ses dérapages. Ce que Marine Le Pen a compris, c'est que précisément, elle n'obtiendrait pas d'alliance avec les partis de la droite classique aux conditions qui sont les siennes. Et par conséquent, ben, pour l'instant, il fallait jouer les chemins séparés, qui correspondent d'ailleurs à deux programmes séparés.
Oui, pour être très court et très bref pour conclure ce débat, et merci beaucoup, c'est vrai que les deux extrêmes droites facilitent aussi, on va dire, le niveau d'accession au second tour pour LR. C'est qu'il y a encore 3 mois ou 4 mois, Marine Le Pen était tellement haute dans les intentions de vote, plus de 20 et largement 20%, que LR était quand même encore très loin. Là, il peut y avoir encore un espoir, même si on a bien vu les difficultés stratégiques de ce mouvement et de la campagne de Valérie Pécresse. Éric Zemmour a rendu service finalement à LR indirectement.
Merci, ce sera le mot de la fin. Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue Civique, Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques, et l'historien Gilles Richard. Un dernier mot pour vous dire que demain, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, sera l'invité de mardi politique sur RFI.